Projection privée.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la Cinémathèque de Toulouse qui organise, comme chaque année, c'est la 5e édition, le Zoom arrière, une manifestation tout à fait passionnante consacrée à la fois à l'histoire du cinéma. On va en parler très longuement puisqu'il s'agit d'une rétrospective du Péplum avec une table ronde, mais aussi des cartes blanches, par exemple à Claude Jean-Philippe qui a fait découvrir le cinéma dans son ciné-club, mais aussi le directeur du musée du cinéma de Turin, Alberto Barbera, qui montrera des films restaurés, Kevin Brandlow, le grand historien du cinéma britannique, Marcel Hanoun, dont la Cinémathèque française présentera également des copies restaurées, et puis évidemment une très grande rétrospective du Péplum avec tous les films dont nous allons parler, pas de tous, mais qui vont de Agora jusqu'à La femme du pharaon de Lubitsch. Il ne faut pas oublier que Lubitsch lui aussi a fait des films sur l'antique, un navet, mais d'une certaine façon spectaculaire, qui est le Caligula de Tinto Brass, et puis évidemment les différentes versions, par exemple, de Cléopâtre, de Mankiewicz et de Cécile B. 2000. Et pour parler donc de ce zoom arrière et surtout de cet Ave Peplum, j'ai réuni autour de cette table quatre des participants du colloque, mais non des moindres, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique, Laurent Aknin, qui est l'auteur d'un livre sur le Peplum chez Armand Collin, Claude Aziza, qui a écrit plusieurs livres qui font autorité sur le péplum, chez Gallimard par exemple. Enfin, c'est pas le même péplum, c'est plutôt la personnalité historique de Néron, le mal-aimé de l'histoire, mais n'y avait-il pas des raisons? Enfin, vous nous le direz. Le guide de l'antiquité imaginaire aux belles lettres, où il y a la bande dessinée, les romans, mais aussi de longs passages sur le cinéma. Et enfin, le péplum, un mauvais genre, qui est chez Klinksik, dans la collection 50 questions. Un livre d'ailleurs très drôle, je dois dire, Claude Aziza, parce que vous ne résistez pas au jeu de mots, et comme je suis un peu complice dans ce genre d'exercice, ça m'a beaucoup diverti. Philippe Faureau, qui est maître de conférence à Toulouse en histoire contemporaine, à Toulouse 2, le Mirail, qui apportera l'accent de Toulouse que nous aimons tous. Et enfin, Christophe Gauthier, qui lui est conservateur de cette même cinémathèque dont je viens de faire la louange, parce que c'est tout de même la deuxième cinémathèque en France après la Cinémathèque française, et qui a une intense activité dont on ne parle pas assez dans la capitale. C'est pour ça que je suis très heureux de venir en parler ici même. Et Christophe Gauthier, qui est un spécialiste de la cinéphilie, qui a publié plusieurs livres sur le sujet et qui, en particulier, nous parlera de la réception du péplum par la critique. Alors, d'abord, Claude Aziza, j'ai envie de vous poser une première question parce que qui un peu bat en brèche ce Ave Peplum, puisque vous n'êtes pas d'accord du tout. Vous dites que ça devrait s'appeler des films à l'antique dans votre 50 questions, ou non, ou plutôt dans l'autre ouvrage, je ne sais plus, j'ai les élus tous les deux, le guide de l'antiquité imaginaire. Vous dites que ce n'est pas le mot qui vous convient.
Moi, je me fonde simplement sur une réalité. Je trouve extraordinaire que 98 ou 99% des réalisateurs qui ont tourné des péplums n'ont jamais su de leur vie qu'ils tournaient des péplums. Ça pose quand même un problème. Vous rencontrez John Ford, et lui, je m'appelle John Ford et je fais des westerns. J'ai rencontré des réalisateurs, j'en ai connu quelques-uns, et surtout Ricardo Freda, personne ne m'a jamais dit « je m'appelle X et je fais des péplums ». Donc je pense que le terme est mal choisi. J'ai vainement tenté de le remplacer par un terme un peu plus noble qui aurait été le film à l'antique. J'ai même proposé un togom qui a eu une durée de vie très éphémère. Donc je me suis résigné à prendre péplum, encore que, en bon latiniste, on aurait dû dire un péplum des pépla, avec accent, avec un S. Bref, péplum, on n'en parle plus, et puis voilà quoi.
Alors, Christophe Gauthier, puisque vous êtes un des organisateurs de ce zoom arrière, quelle réponse tenez-vous à Claude Aziza, qui est d'ailleurs historien de l'antiquité fantasmée, donc qui a autorité pour dire que péplum n'est pas le mot? Alors, vous avez choisi, vous, péplum.
Oui, tout à fait. On a choisi péplum parce que ça présente un avantage considérable, c'est que c'est un terme qui est reconnu par tous. Et de surcroît très bref, ce qui, évidemment, pour communiquer sur le sujet, c'est un avantage considérable. On a quand même respecté les préconisations de Claude Aziza, au sens où, conformément à ce qu'il écrit dans le livre Le Péplum, un mauvais genre, nous n'avons pas mis d'accent. sur le mot péplum. Voilà, on a été très attentif à ce point particulier.
Merci.
Alors justement, Claude Aziza, l'accent dans péplum, dans votre recension des différents articles qui ont commencé à apparaître au début des années 60, tout le monde pratiquement mettait un accent aigu sur le mot péplum. Alors, ça date de quand cette expression péplum ?
Ah ben, au bout d'une longue recherche qui a été menée d'ailleurs par mes étudiants de cinéma, autant je faisais aussi la licence de cinéma, on a vraiment répertorié tous les articles là-dessus. Et après, c'est vraiment une recherche de détective. On a découvert les auteurs de ce crime linguistique, qui sont Tavernier, deux de ses compères, qui avaient l'habitude de...
Yves Martin, il faut le dire, Yves poète Martin, qui est mort Yves malheureusement, est mort. Poète de grand talent, et puis Bernard Martinan.
Voilà, Bernard Martinan, et donc eux faisaient leurs humanités au cinéma, et au lieu de dire ce qu'on disait à l'époque, d'ailleurs, quand on allait voir un film de KPDP, par exemple, on disait on va voir un film à costume, et un des trois, d'ailleurs, on a vraiment le véritable coupable a refusé de se dévoiler. Un des trois a dit on va voir un film à péplos. Et en regardant la chronologie, il semble bien que ce soit en 64 et ça devait être un Freda qui sortait à ce moment-là, puisque j'ai regardé tous les articles là-dessus. Et donc, le mot péplos, qui est quand même. Péplos, c'est un vêtement de femme, grec. Alors, prendre un vêtement de femme grecque pour qualifier des films qui sont on ne peut plus machistes et homosexuels rentrés, ça me paraît assez amusant finalement. Puis après, alors les critiques ont dit, il y en a qui disaient pépla, ce qui a fait du latin, puis il y en a d'autres qui avaient péplum, puis il y en a qui mettaient péplum avec un S, puis avec un accent. Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que quand même, je me suis battu pour qu'on dise partout péplum sans accent et que finalement, dans le cinéma action que j'ai fait avec Laurent Hacknin qui est ici, on a mis péplum avec un accent partout, comme quoi l'usage est toujours supérieur à la règle.
Alors Christophe Gauthier, vous qui êtes spécialiste des pratiques cinéphiliques, vous avez aussi une histoire, disons, de la légitimation en même temps, parce que c'était des articles pas du tout condescendants, ces articles qui, pour la première fois, prenaient au sérieux ce genre qui a été souvent méprisé, surtout en Italie, oui. Et surtout le péplum italien, parce qu'on verra qu'il y a deux grands axes, finalement, c'est les États-Unis, c'est Hollywood, et d'autre part, l'Italie.
Oui, tout à fait. Moi, je me suis plus particulièrement intéressé, d'ailleurs, aux articles sur le genre italien, en cherchant les premières notules qui apparaissent notamment dans Cinéma 61, qui sont de la plume de Bertrand Tavernier, qui est un des premiers à défendre ce qu'il appelle les films mythologiques, hein, qui était une expression qui était antérieure aux films à costume ou aux films antiques, et dans un mouvement qui est très clairement un mouvement qui s'oppose justement à une condescendance réelle ou supposée de ce que Tavernier ou d'autres d'ailleurs considèrent comme étant de la condescendance à l'égard de ce cinéma populaire, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, au fond, la question du cinéma populaire et du regard porté par la critique cinéphile sur ce cinéma populaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un retournement très rapide qui s'opère entre 61 et 64, dans les années qui sont à la fois les années de plus grosses productions de films donc à l'antique, jusqu'à un déclin, d'ailleurs, irrémédiable à partir de 64-65, où on a donc ces quelques articles de Tavernier, on a aussi donc le texte de Jacques Siclier dans Les Cahiers du cinéma en 1962, suivi d'un texte de Gérard Legrand, qui sont deux premières grandes rétrospectives, en fait, hein, sur le péplum.
Dans Positif.
Oui, Gérard Legrand, dans Positif, bien entendu. Ce qu'il est aussi intéressant de remarquer, c'est que cette appétence, on va dire, pour ce genre jusqu'à présent méprisé, vient, en ce qui concerne Gérard Legrand, de quelqu'un qui avait une pratique du surréalisme, qui venait en fait du mouvement surréalisme.
Et donc, une culture grecque et latine. C'est-à-dire qu'il lisait le grec et le latin.
Tout à fait.
Et donc, c'est le moins en moins répandu chez les critiques de cinéma et même en général dans l'humanité entière.
Et même chez les latinistes et les hellénistes, je crois.
Exactement. Et c'est vrai que là, on a en fait, de manière très intéressante, un mouvement qui vise au fond à exalter une forme de contre-culture cinématographique à l'encontre d'un cinéma donc italien d'auteur qui existait bien sûr à la fin des années 50, on le connaît tous, mais qui semblait occulter ou masquer en quelque sorte cette production populaire. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans un article de Cinéma 64 un article italien qui est publié dans Cinéma 64, qui est un article passionnant d'histoire culturelle, qui est dû donc à un critique de cinéma qui s'appelle Vittorio Spinazzola, et donc qui justement est un article absolument fascinant où il décrit très exactement ce mouvement de délégitimation de ce genre populaire, puis de relégitimation, qui tient à une chose très simple, c'est que Spinazzola considère qu'il faut considérer le péplum, il n'appelle pas ça comme ça, les films populaires, comme au fond un genre si populaire qu'il en est devenu important dans l'histoire du cinéma. C'est donc au nom, en fait, de l'importance de ce genre dans la culture cinématographique populaire qu'il faut le réhabiliter, et non pas tant en raison de, de ses qualités esthétiques qui ne seront découvertes, au fond, que plus tard, sous la plume, justement, plus particulièrement de la critique française. Et il faut citer aussi un autre nom, qui est celui de Michel Mardor, qui a beaucoup contribué aussi à cette évaluation, sinon réévaluation, en fait, de ce genre, à une époque où, au demeurant, et ça, c'est important de le souligner, on ne connaissait pas, ou on n'avait quasiment pas vu les films des années 10 ou des années 20, de l'époque du muet. C'était des films qui n'étaient pas restaurés, qui n'étaient pas disponibles à l'époque. Et donc, on se fondait soit sur le souvenir de quelques-uns de ces films, dont Scipion l'Africain, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et sur la vision, finalement, de films beaucoup plus récents, à partir des années 50, Ulysse de Camerini, Néron Tyram Rome de Primo Zelio, voire pour ce qui est en fait des films américains, Le Covadis de Mervyn LeRoy.
Alors, avant d'aborder la chronologie du péplum cinématographique, on pourrait d'abord établir la chronologie de ce sujet lui-même, c'est-à-dire quand commence vraiment l'Antiquité et quand se termine-t-elle ? Alors, puisque c'est une forme de table ronde que nous faisons en ce moment, est-ce que les chevaliers de la table ronde, par exemple, qui sont du 5e au 6e siècle, vous, les chevaliers d'aujourd'hui, est-ce que vous incluriez la table ronde ? Est-ce qu'en fait, quand on représente, même dans Excalibur, mais dans les versions plus traditionnelles, c'est tout de même le Moyen-Âge. C'est pas du tout des gens habillés en centurion romain, alors qu'en fait, c'est du 5e. Ça correspond à peu près encore à l'occupation romaine. Alors, Laurent Aknin.
Moi, j'ai une théorie purement pragmatique par rapport à cette question, n'étant pas historien, sauf historien de cinéma. Je pars du principe que tant qu'on voit des soldats romains à l'écran, c'est encore un péplum. C'est-à-dire que, par exemple, dans Le Roi Arthur, la dernière version, celle de Fuca, on voit encore les légions romaines. Donc, on considère que c'est encore un péplum. Alors que si on prend une esthétique purement médiévale, comme dans Chez Richard Thorpe, par exemple, ce ne sera pas un péplum. Ce sera un film moyenâgeux, un film de chevalerie. Comme les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la fin de l'Antiquité, au moins, si on se dit tant qu'il y a des Romains, donc qui font péplum, qui font antique dans le sens de l'Antiquité présent à l'écran, on considère que c'est encore un petit péplum. Et ça permet aussi de situer d'autres films, par exemple Théodora de Riccardo Freda, c'est encore l'Empire romain d'Orient. Bien sûr, sur un acte chronologique, ça peut correspondre au roi Arthur, plus ou moins, selon la période où on place le roi Arthur. Mais comme c'est l'Empire romain, ça sera un péplum, tandis que de l'autre côté, le roi Arthur ne sera plus un péplum. On peut s'en sortir comme ça, c'est assez facile comme ça de travailler, puisque au bout du compte, les films d'antique, moi je préfère dire les péplums une fois pour toutes, l'exactitude historique ou la reconstitution de l'histoire en elle-même n'est pas le sujet principal du film. Du moins, c'est toujours été ce que je considère sur ces films, c'était l'Antiquité purement fantasmatique, comme dirait Claude Aziza. Il y a autant de rapports avec l'histoire dans un péplum qu'un film de science-fiction en a avec le futur. C'est à peu près la même chose. Donc, au moins, se débrouiller pour travailler sur une esthétique présente à l'écran plutôt que sur des repères historiques qui, de toute manière, seront dans un flou artistique le plus complet.
Alors, Philippe Faureau, vous qui êtes historien du contemporain, qu'est-ce qui vous parle dans le péplum ?
D'abord, je crois que le péplum a longtemps représenté tout de même une part de notre culture occidentale. Vous soulignez tout à l'heure qu'effectivement, les humanités ont connu une décadence, peut-être aussi une société moins christianisée qu'auparavant, et qui fait que finalement, le péplum a pu représenter un pan de notre culture où bien des spectateurs reconnaissaient des études, des souvenirs de livres d'histoire, des souvenirs de catéchisme même. Et donc, je pense qu'effectivement, ça a pu représenter quelque chose de fort dans la mémoire des spectateurs et peut-être des réalisateurs, voire des acteurs. Si vous me permettez aussi, je voudrais réagir par rapport à l'historicité. On peut peut-être considérer que, sur le plan purement historique, la fin de la présence byzantine en Italie, en particulier au VIe siècle, c'est peut-être là la fin de l'Antiquité, véritablement, c'est-à-dire les invasions lombardes. Je crois qu'il y a encore quelques films qui, d'ailleurs, sont considérés comme péplum et qui parlent de l'invasion lombarde au VIe siècle. Et si on remonte le temps, alors là, on peut remonter très loin. Après tout, est-ce que les grands textes bibliques, Est-ce que la Mésopotamie antique n'est pas aussi un élément du péplum dans la très haute antiquité? Donc, disons, de Babylone jusqu'aux Lombards, nous couvrons un grand millénaire.
Tout d'Aziza. On va dire plus.
Oui, moi j'aurais une autre approche, parce que le problème, si on commence à la Bible, c'est bien, on peut commencer à la création du monde, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait des films préhistoriques, par exemple? C'est des péplums ou pas des péplums? Donc déjà, on va s'embêter. Moi j'aurais une approche un peu plus réaliste en partant de l'art poétique de Boileau. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. C'est ce que dit Boileau, une merveille absurde est pour moi sans appât. Moi, je ferai la différence entre la vérité historique et le vraisemblable. Et j'ai l'impression que le spectateur, lorsqu'il va au cinéma, il veut retrouver les images qu'il a dans sa tête. Quand il va voir un film sur les chevaliers de la table ronde, qu'on le veuille ou non, ces images sont médiévales. Il y a des raisons littéraires, hein, qui, évidemment, qui le font. Donc, et je trouve que le roi Arthur, et tu as raison de le dire, de Fucas, c'est un progrès énorme. Et je ne suis pas sûr qu'il ait été salué avec autant de respect et de joie qu'Excalibur, par exemple. Mais il y a un autre problème pour un autre genre. Regardez, par exemple, le western. Les historiens du western se battent pour savoir la guerre de sécession. La guerre de sécession a touché l'Est. Hein, l'Ouest était en général neutre. Alors, est-ce que ce sont des westerns ou pas des westerns? Où on les met, les films de guerre de sécession? Il y en a beaucoup. Les Cavaliers de John Ford, par exemple. Donc, vous voyez, ce problème des genres et de la limitation géographique pour le western ou historique pour le péplum, il me semble qu'elle est, c'est bien, on en parle, elle est finalement un petit peu vaine. On réagit un peu comme ça et vous avez tout à fait raison. La Bible, oui, mais alors les hommes préhistoriques, non. Si on voit jusqu'à 1453, Constantinople par les Turcs, à ce moment-là, on se met Robin des Bois, les Vikings, les Mille et Une Nuits, on ne s'en sort plus.
Cette question, d'ailleurs, en fait, des limites chronologiques peut néanmoins, en termes d'histoire du cinéma, être un indice de la légitimité plus ou moins grande du genre. Il est tout à fait intéressant que sur les péplums les plus récents, vous avez cité donc le roi Arthur, on pourrait citer aussi La Dernière Légion, qui est un péplum très récent des années 2000, l'histoire arthurienne, la geste arthurienne, soit basculée du côté antique, comme si au fond la représentation faite du Moyen-Âge n'avait plus de légitimité cinématographique en réalité, et je ne parle pas d'une légitimité historique, mais d'une légitimité cinématographique, et qu'il fallait basculer finalement vers la partie antique, en fait, vers la représentation de l'Antiquité, pour faire un film finalement qui s'inscrive dans un genre, qui soit un genre réellement considéré, quoi. Donc c'est un indice, je pense, au fond, de la légitimité relative du genre.
Je crois qu'on pourrait finalement faire une définition. Enfin, je suis d'accord avec Claude Aziza, on ne peut pas l'étendre à l'infini, mais je pense que c'est d'abord méditerranéen et moyen-oriental, le péplum. C'est effectivement, ça va jusqu'à la Bible, ça comprend l'Égypte, ça comprend Rome et la Grèce. Je crois que si on aborde d'autres, les sagas scandinaves, ce n'est pas le péplum, l'Antarctique non plus, la Chine non plus, même si... Bon, je pense que c'est tout de même méditerranéen. Et alors, on pourrait se poser la question, d'ailleurs, que Claude Aziza soulève, il y répond d'ailleurs aussi, c'est que finalement, de ces quatre grandes régions qui ont formé l'inspiration du péplum, Rome, l'Égypte, la Bible, enfin, c'est-à-dire le Moyen-Orient, et la Grèce classique, celle qui est complètement sous-représentée, c'est tout de même la Grèce classique. La Grèce classique n'inspire pas vraiment les auteurs de péplum, Claude Aziza.
Il me semble que la Grèce classique n'a pas l'unité fondamentale que représente Rome. Aux yeux de l'historien de l'Antiquité, bien sûr, Rome, c'est quelque chose. La Grèce classique, c'est quoi? C'est Athènes, c'est l'Athènes de Périclès, c'est Sparte, c'est Corinthe, c'est Thèbes. C'est une partie des guerres médiques. Est-ce que c'est les guerres du Péloponnèse? Donc, les films sont très peu représentés, sauf Alexandre, qui est surreprésenté, mais dans la tradition du cinéma indien. Ce qui est encore autre chose, Sikandar, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors que, au fond, la Grèce, pour les gens, c'est la mythologie, c'est les héros de la mythologie. Et il est assez curieux de voir que dans les débuts du cinéma, la plupart des épisodes qu'on voit dans ce genre populaire, destiné à un public populaire, sont des épisodes de la mythologie grecque extrêmement compliqués et dont on a perdu jusqu'au souvenir maintenant.
Laurent Acquenin. Sauf qu'il y a un phénomène curieux qui se passe depuis 10 ans, notamment dans le cinéma américain, alors que dans les années 50-60, c'était toujours Rome qui était représentée dans le cinéma américain, qui était un peu la représentation fantasmatique des États-Unis à l'écran. Depuis la renaissance du genre après Gladiator, qui était encore sur Rome et qui était une sorte de film de transition entre l'époque classique et puis l'époque du 21e siècle du péplum, la plupart des films américains contemporains prennent la Grèce comme sujet. en mélangeant, c'est assez curieux, la mythologie et l'histoire. Mais quand ils font Troie, par exemple,
de Wolfgang Petersen,
tout l'aspect mythologique est balayé. Il n'y a plus les dieux, il n'y a plus de super-pouvoirs. C'est vraiment une armée.
C'est l'Iliade.
C'est comme un épisode historique. Mais quand on prend là les films qui ont été faits, c'est quand même assez stupéfiant. Il y a eu plus de films sur la Grèce au sens large produits en pourcentage aux États-Unis qu'il y en avait avant. Il y a eu 300 sur les Léonidas. Donc 3, il y a eu Alexandre. Il y a eu donc le choc des Titans, le remake qui vient d'être fait. On nous annonce maintenant un nouveau film sur le mythe de Thésée qui va sortir à l'automne. Donc c'est très curieux de voir qu'après que dans le cinéma classique, la Grèce a été justement totalement occultée. Actuellement, les États-Unis semblent se projeter d'une manière fantasmatique sur la période grecque, alors qu'avant, c'était sur Rome pour se représenter eux-mêmes.
Oui, c'était très récent. On pourrait dire que c'est une influence d'Obama, parce que la démocratie avancerait au profit de la fascination pour la dictature. C'est pas ça, puisque c'est correspondu, Troie, avec l'époque Bush.
Voilà, c'est Troie étant d'ailleurs une sorte de projection fantasmatique de la guerre en Irak, puisque c'est, quand on regarde le scénario de base, c'est quoi ? C'est un roi très puissant qui monte une coalition autour de lui pour aller faire la guerre dans une cité perdue dans le désert, et ça dure beaucoup plus longtemps que ce qu'il imaginait, et c'était en plein dans la guerre en Irak.
Alors on parlera plus tard de cette lecture contemporaine de l'histoire qui, en fait, aucun film n'est seulement placé dans l'époque qu'il évoque, il est toujours en référence à notre époque, Philippe Faureau.
Oui, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que depuis quelques années, il y a tout de même un effort de fait pour donner au péplum un vrai sens historique au sens documentaire. En 2005, le Brûler Rome, par exemple, de Kechichian, se voulait pas une simple histoire, ça se voulait aussi une analyse historique. La grande série Rome, qui a été projeté sur petit écran, se veut assez historique, assez proche de ce que l'on sait de la fin de la République romaine. Je pense à une série qui doit remonter, je crois, au début des années 80, sur Masada, britannique. Masada, sur le plan de l'histoire du siège de Masada, de l'histoire militaire...
Du suicide des Hébreux.
Oui, d'après Flavius Joseph, d'ailleurs, on en discute. Mais ce siège de Masada par la 10e Légion, c'est vraiment historique. Là, on ne fait pas un film fantasmé, on essaie de s'approcher d'une réalité. Et ça, les Britanniques, de ce point de vue-là, ont fait des efforts, me semble-t-il.
Alors, avant de revenir en arrière très lointainement et aux origines du péplum, je voudrais tout de même continuer sur l'évocation de Philippe Faureau, de cette série télévisée Rome, qui est la manifestation la plus récente et qui donne des arguments à ceux qui disent que souvent l'invention se trouve plus dans les séries que dans le cinéma purement hollywoodien, enfin production cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'historien de l'Antiquité ?
Je reviens un petit peu sur Masada. Masada, c'est une série américaine. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que effectivement, on part d'éléments d'ailleurs historiques, mais il me semble que les séries, comment dire, il y a du négatif et du positif. Prenez par exemple une série comme Xena, la guerrière. Xena et Hercule nous amènent finalement à ce que tu disais pour le roi Arthur. Ça veut dire qu'il y a en ce moment, au point de vue fantasmatique, dans la littérature de science-fiction, plutôt de fantasy, un mélange qui vient, à mon avis, de Xena, qui est que, par exemple, on a maintenant des films où Merlin retrouve Jason, c'est un roman par exemple, où Jason et Merlin vont à la recherche des fils de Jason que Médée n'a pas tué. C'est-à-dire qu'il y a un croisement entre le cycle d'Arthur et la fin de l'Antiquité romaine, avec quand même une petite distorsion chronologique, puisque dans la dernière Légion, au fond, le petit Romulus Augustule va être le père. Donc, il y a une distorsion chronologique. Hein. Bon, on le fait entre 476 et 500 et quelques. Mais donc, il y a une espèce de... J'y vois là, avec beaucoup de pessimisme, un signe de la confusion des esprits sur... ça, c'est le vieux prof qui parle. Hein. Donc, je vais jouer un peu au vieux con. La confusion des esprits en ce qui concerne l'Antiquité et le mélange des genres. C'est-à-dire, tout est dans tout, me semble-t-il. Mais d'un autre côté, parallèlement à ça, on voit des séries Rome où on cherche la plus grande exactitude possible.
Si tant est
qu'elle puisse être obtenue, ce dont je doute personnellement. Mais ça, c'est autre chose, c'est en tant qu'historien de l'Antiquité que je dis ça. Et c'est vrai qu'elle est extrêmement... elle correspond à ce qu'on imagine En revanche, prenez une série là, qui vient de sortir, hein, qui est Spartacus, où alors on est en plein fantasme, même si c'est la première saison. Mais il est vrai que sur Spartacus, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a écrit relève du fantasme, puisqu'on ne sait rien.
Christophe Gauthier.
Oui, je voulais juste dire que cette question de ce que vous appeliez confusion, je l'appellerais plutôt syncrétisme, et elle est quand même assez ancienne dans l'histoire, non pas du péplum en tant que genre, mais je dirais de ces films à visée mythologique. Il suffit de penser à La Couronne de Fer, par exemple, d'Alessandro Blasetti, qui est un film très ancien, qui date du début des années 40, qui est au fond plus proche, proche de Scipion l'Africain, que Philippe Foreau connaît très bien, que des péplums au fond des années 50-60. Et je me demande si là, dans l'histoire du cinéma, on n'a pas en fait une sorte de branche comme ça qui s'est autonomisée, qui s'est indépendantisée, si je puis dire, depuis ces films à représentation antique, etc., et qui finalement joue sur le syncrétisme, le mélange, etc., et qu'on retrouve tant dans les films que dans les séries télévisées. Vous faisiez allusion à Xena, effectivement, c'est tout à fait le cas.
Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, d'être un peu pédagogique, parce que chronologiquement, il faudrait dire qu'il y a eu d'abord plusieurs âges d'or, pas tellement, mais en tout cas deux qui paraissent dominer. Le premier, c'est le muet, et c'est pratiquement la naissance du long métrage, puisque le premier péplum, c'était pas un péplum, le premier long métrage avant Griffith, c'est en Italie qu'on le tourne, c'est Quo Vadis et puis Cabiria, qui sont des longs métrages et qui parlent tous les deux de l'Antiquité. Donc il y a donc cette période très riche. Est-ce que, Laurent Agnin, vous pouvez évoquer ces quelques films qui ont été un peu les bases du genre?
C'est-à-dire que c'était surtout une espèce de concurrence permanente, surtout dans les années 10, entre les États-Unis et l'Italie, pour celui qui ferait les plus grandes superproductions. Il y avait vraiment sur le marché international une sorte de lutte comme ça qui se passait. Alors, les Italiens avaient toujours une longueur d'avance à ce moment-là. C'est toujours eux qui ont été les inspirateurs des grandes productions à l'antique. Et chaque fois qu'ils en faisaient une, c'était les Américains rebondissaient derrière pour faire mieux et ainsi de suite. Le premier grand auteur italien, c'était Luigi Maggi, avant même Enrico Guazzi. C'était les tout premières grandes bandes antiques qui duraient déjà environ 15 minutes, ce qui était au début des années 10, à la fin, ou même 1908 à peu près.
Mais c'était pas des longs métrages.
Oui, enfin c'était des longs métrages à l'époque, c'est-à-dire que ça faisait quand même, c'était par rapport à des bandes qui ne duraient que 5 minutes parfois, proposer quelque chose qui durait 15-20 minutes était déjà du domaine de la superproduction. Ensuite, bon, bien sûr, c'est lié au contexte économique, quand le cinéma s'est sédentarisé une fois pour toutes, que les grandes salles de cinéma se sont installées et que les copies, bon, ont pu non plus être vendu mais loué, ça a ouvert la porte comme ça aux grandes productions. Et les Italiens, alors en se basant bien sûr, ce qui était normal, sur la propre histoire romaine, italienne, donc avec aussi cette fibre nationaliste, ont commencé à faire les premières grandes productions, les Quo Vadis et surtout les Derniers Jours de Pompéi. Je crois que c'était Nino Frank qui disait dans Cinema dell'Arte, saura-t-on jamais combien de Derniers Jours de Pompéi il y aura eu dans le cinéma italien, ce qui est tout à fait vrai. Et puis en réponse, systématiquement, le cinéma américain, bon, alors, c'était la concurrence entre Cabiria, Griffith qui a remis ça, et puis, avec aussi, quand même, dans les années 20, un troisième concurrent qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est le cinéma germanique, puisqu'on parlait de Lubitsch, c'est vrai que Lubitsch et d'autres, ou même Michael Curtis, voilà, le futur Michael Curtis,
hongrois,
mais qui a tourné aussi en Allemagne, enfin, il y a toute une série de coproductions comme ça, en Europe, on va dire, germanique, pour
oui,
ou centrale,
tourné à Vienne,
voilà, tout est tourné à Vienne, donc il y avait ces trois pôles, comme ça, qui ont été en concurrence, et qui ont le but principal, c'est vrai, était une espèce de course perpétuelle au gigantisme, plus long, plus grand, plus de figurants, et jusqu'au moment où les deux principaux concurrents, les États-Unis et l'Italie, ont été à égalité par chaos mutuel, c'est-à-dire que les deux dernières grandes productions, le Ben-Hur de Fred Niblo et puis le Dernier Jour de Pompéi, ont été jamais rentabilisées, même si c'était des films énormes, et à ce moment-là, vers 1926, cette course à la superproduction s'est arrêtée à peu près pratiquement à la fin de l'ère du cinéma muet. Il aura fallu attendre très longtemps pour que cela reparte vraiment sur les écrans.
Il faut signaler tout de même l'importance de ce point de vue-là de Cécile B. 2000, qui d'ailleurs, comme Lubitsch, a alterné, enfin a commencé lui par des comédies, enfin pas commencé, mais il a fait beaucoup de comédies d'ailleurs de boudoir, des comédies sophistiquées, pour passer ensuite à l'Antiquité, avec tout de même des classiques, Le Roi des Rois, Les Dix Commandements ont été tout de même des films très marquants.
Oui, mais alors c'est très curieux, parce que autant Le Roi des Rois est vraiment un film biblique, donc c'est jamais qu'une des dernières versions dans le cinéma muet d'un genre spécifique qui s'appelle les des passions, du genre des passions, qui a commencé avec la naissance du cinéma, avec la passion de Edison, pratiquement. Autant les 10 commandements, c'est un petit peu spécial, parce que c'était une tradition aussi, à l'époque du cinéma muet des années 20, d'inclure des scènes antiques, des grands passages antiques, dans un drame contemporain. La première version des 10 commandements, ce n'est pas un film antique du début jusqu'à la fin, c'est simplement un drame mondain, un mélodrame situé à l'époque contemporaine, dans lequel est intercalé un très long flashback à titre d'exemplarité, d'exhortation, qui est la reconstitution des 10 commandements, mais qui va donner ensuite, dans les années 50, un long métrage complet. Mais c'était très courant à l'époque de me faire une séquence antique en forme de flashback. Et ce n'était pas tout le film qui était un film antique. C'était un genre, à ce moment-là, très particulier. Et dans le cas de Cécile B. 2000, c'était comme ça qu'il avait procédé.
Ce qui était le cas, d'ailleurs, Philippe aussi, c'était le cas, en fait, de Kertész, enfin,
de Sodome et Gomorre.
Et il faut voir là-dedans la leçon d'intolérance, bien sûr, en fait, hein, voilà, qui a une influence considérable sur toutes ces réalisations dans les années 20, bien entendu.
Sauf que intolérance, donc c'était plusieurs épisodes qui étaient intercalés en alterné, mais ce que là, c'était un seul épisode qui servait d'exemplarité.
Philippe Faure.
Oui, à propos de l'Italie des années 20, il faut souligner, je crois, un paradoxe. C'est que le fascisme s'installe véritablement en 25-26 comme régime à vocation totalitaire. Et on pourrait imaginer que dans la mesure où il va beaucoup utiliser dans le discours politique, dans l'instrumentalisation de l'archéologie, dans l'urbanisme, l'Antiquité, le cinéma italien des années 30 est d'une pauvreté absolue en matière de péplum, sauf, effectivement, le Carmine Gallone, Scipion l'Africain, en 1937.
Qui est en référence directe à la conquête de l'Éthiopie.
Enfin, oui, c'est un film, à mon avis, d'une grande richesse, parce que, évidemment, il est en référence à l'Éthiopie, puisqu'il est tourné entre août 36, quelques semaines après la fin de la guerre, et mars 37. Mais si on regarde un peu le détail de ce péplum, qui, lui, alors, se veut officiellement politique, qui se déclare politique, il y a par exemple le début des revendications en 37-38 italiennes sur la Tunisie. Or, où Scipion l'Africain bat Carthage, Azama, dans l'actuelle Tunisie, qui est un protectorat français en 37-38, et que les Italiens réclament au nom d'un droit historique qui remonterait à la Rome républicaine. De même, quand on regarde quelques détails du film, il y a une scène, pour ne pas trop prolonger, mais une scène me paraît intéressante. On voit au début du film des matrones romaines remettre leurs bijoux pour financer la guerre contre Carthage. Eh bien, pour l'Italien de 1937, cette affaire de remettre les bijoux correspondait à la journée du 18 décembre 1935 où des millions d'Italiennes sont allées remettre leurs alliances pour financer la guerre de la reine jusque des fois dans les plus petits villages d'Italie. Et pour le contemporain, cette affaire des bijoux remis pour financer la guerre contre Carthage, c'était l'effort qu'avaient fait les Italiens le 18 décembre 1935 dans la Giornata della Fede, la journée de la foi.
Alors, Claude Azida, je voudrais... Maintenant, on va passer à cette deuxième période, cette deuxième âge d'or qui commence en 1950 environ. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que de même qu'on a vu que le premier long-métrage de l'histoire du cinéma, c'était un péplum, le premier film en cinémascope, ça va être aussi un péplum, c'est-à-dire La Tunique. Et que le cinéma américain va reprendre à partir de... Alors, est-ce que c'est justement la lutte contre la télévision qui font que le péplum se prêtait à des superproductions, etc. Mais comment vous expliquez ensuite cette efflorescence de film qui va depuis La Tunique, il y a aussi le film de Howard Hawks, par exemple, La Terre des Pharaons, dont vous montrez dans votre livre, c'est très amusant que il y a des chameaux, alors qu'il n'y avait aucun chameau en Égypte au moment de La Terre des Pharaons. Enfin, c'est la vérité historique n'a aucun intérêt pour les réalisateurs dans ce cas précis. Et puis ça va jusqu'au Cléopâtre de Mankiewicz, voilà, c'est-à-dire jusqu'en 64, c'est-à-dire qu'il y a une extraordinaire vogue du cinéma avec Ben Hur de William Wyler qui remporte tous les Oscars. Comment vous voyez cette réhabilitation ou cette résurrection du péplum dans le cinéma hollywoodien ?
Moi, je crois qu'il y a plusieurs étapes. Il y en a une qui est finalement le prolongement de ce qui s'est passé dans les années 30. C'est les derniers jours de Pompéi de l'Herbier en 48. C'est la Fabiola de Blasetti qui ressort d'ailleurs avec une dédicace assez étonnante, qui ne sont plus les martyrs chrétiens, mais sont plutôt les martyrs du nazisme. Donc il y a à chaque fois une réappropriation de l'actualité. Et puis il y a aussi, dans les étapes, bon, je ne parle pas du Néron tyran de Rome, parce qu'il a eu une sortie compliquée, bon, tourné en 49, sortie plus tard, mais il y a eu évidemment, d'abord, je crois, le grand succès de l'Ulysse de Camerini. Et je pense que ça, à partir de là, je parle de l'Italie. Alors bien sûr, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a le grand succès du Samson et Dalila en 49 de Cécile Benmé. Donc à partir de ces deux films-là, avec le pur hasard qui fait que Kirk Douglas est à Rome et qu'il tourne Ulysse, je ne vais pas faire people ici, mais je pourrais expliquer pourquoi il était à Rome, etc. Mais peu importe. Et donc, pour des raisons amoureuses d'ailleurs, et donc finalement à partir de là, quand en 57, la fille d'Ino De Laurentiis voit ce gars qui était en train de passer dans comme ça à la télévision, puis au cinéma, qui était Steve Reeves, et qu'en 57, on a les travaux d'Hercule, qui, entre parenthèses, ressemble beaucoup à Samson et Dalila, parce que l'Hercule en question fait des travaux qui ne sont pas dans la mythologie, mais plutôt des tours de foire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il tord des barres exactement dans le Samson et Dalila. Et donc, à ce moment-là, le mélange de Samson et Dalila et de l'Ulysse de Camerini, donc du cinéma américain et du cinéma italien, amène les travaux d'Hercule avec un succès extraordinaire. Et là, le péplum se relance. Bien sûr qu'il y a Cinémascope, il y a Covadis en 51 parce que ça coûte pas cher, non ? Il y a énormément de choses. Il y a la Tunique en 53, c'est vrai, mais c'est vraiment à partir de 57 qu'il y a le deuxième âge d'or du péplum, et il va se passer ce qui se passe d'ailleurs avec le cinéma italien, très souvent, c'est que le genre va être usé jusqu'à la corde, c'est-à-dire qu'on fera 3-4 Hercules qui seront bons, 3-4 Hercules qui sont moyens, et puis des Hercules qui seront nullissimes. Et le genre s'arrête en 64, au moment d'ailleurs où commence le western italien. Ça aussi, on arrive encore à une autre période.
Philippe Faureau.
Peut-être que le contexte de la guerre froide a joué aussi dans le renouveau du péplum, parce que j'ai le sentiment, mais là je parle sous votre contrôle, que des films comme Covadis, voire même comme La Tunique, dénoncent mine de rien sous l'Empire romain, en fait l'Empire soviétique. Regardez par exemple ce qui est dit dans le prologue de Covadis. Chacun est à la merci de l'État, le crime remplace la justice, les chefs des nations soumises livrent leur peuple à la servitude, puissants ou misérables, tous deviennent les esclaves ou les otages de Rome. Nul ne peut échapper au fouet ou au glaive. Mais vous remplacez Rome par Moscou, les chefs des nations soumises par le bloc de l'Est. Je me demande tout de même s'il n'y a pas le contexte de cette guerre froide en 1951, Staline est encore au pouvoir, très très fort. Et autre phrase qui m'avait surprise, c'est dans La Tunique, Tibère, à qui on raconte l'aventure du Christ, et qui parle à propos du christianisme, c'est un film de 1953, « Ceci est le désir de liberté des hommes ». Au même moment où l'Église catholique dans le bloc de l'Est est soumise aux arrestations des prélats en Pologne, en Hongrie, etc. Je me demande si la guerre froide n'a pas pu aussi jouer, mais là, peut-être que j'aurai des réactions, sur ce renouveau.
Mais ce que vous dites, d'ailleurs, Philippe Faureau, est intéressant, parce que c'est vrai que si Georges Sadoul, par exemple, l'historien communiste bien connu, avait vu davantage de péplum, il aurait mieux compris la situation en Europe de l'Est, plutôt que d'admirer les films staliniens. Oui. Par exemple,
il n'aurait pas fait un contresens sur Kabiria d'ailleurs, en disant que c'était un hymne à la liberté.
Dans le cas de Covadis, c'est évident, parce que le film était d'abord prévu pour être réalisé par John Huston. Il voulait faire de Néron une métaphore de Hitler. Et finalement, le film a été repoussé d'un an ou deux, entièrement changé par la Metro-Goldwyn-Mayer. Et c'était effectivement l'idée de faire plutôt de Néron une vision de Staline. En tout cas, qu'est-ce que ça peut être un homme qui développe un culte de la personnalité et dans lequel la religion n'existe pas ou n'existe plus. Mais dans le cinéma italien, on peut retrouver ce parallèle. Par exemple, on parlait des Hercule tout à l'heure. Quand on prend un des plus beaux films de la série, qui est Hercule à la conquête de l'Atlantide, de
Vittorio
Cotta Favi, qui lui aimait beaucoup le terme de péplum, d'ailleurs. J'ai discuté plusieurs fois avec lui, il aimait beaucoup ce terme, il trouvait ça parfait.
Qui était un homme d'ailleurs très cultivé, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces gens qui faisaient du cinéma ultra populaire, qui étaient souvent méprisés par les intellectuels, mettaient en scène à la télévision Euripide, Racine, etc. C'est un homme d'une grande culture.
Très grande culture, même. Par exemple, un autre comme Domenico Paolella, qui a fait un article merveilleux qui s'appelle La psychanalyse du pauvre dans Midi Minuit Fantastique, dans lequel il analysait son propre travail, était d'une lucidité extraordinaire. Mais donc, dans Hercule à la conquête de l'Atlantique, on voit la cité grecque menacée par un danger qui vient du Nil perdu, on ne sait pas trop où, et on se rend compte au bout du compte que là-bas il y a un régime totalitaire, mi-nazi, mi-communiste, dans lequel se développe une sorte de feu nucléaire, et on est à l'époque en plein dans la crise de Cuba. Donc c'est voilà, toujours il y a cette référence permanente au monde contemporain dans les films transposés dans l'Antiquité.
Oui, d'ailleurs, Claude Aziza, vous en parlez, en particulier de cette lecture contemporaine de films qui se situent apparemment il y a 3000 ans. C'est par exemple les films sur, qui se réfèrent en fait au Moyen-Orient et au conflit entre Israël et les pays arabes. Par exemple, les 10 commandements de Cécile B2000 ou bien Salomon et la reine de Saba de King Vidor.
Oui.
Est-ce que
oui,
vous
bien
pouvez
sûr.
Évoquer oui, justement ces deux
juste
films.
Juste un tout petit retour en arrière. Dans les deux cas qu'on a évoqués là, c'est-à-dire La Tunique et Covadis, il ne faut quand même pas oublier qu'on part de romans. C'est-à-dire qu'on part d'un genre littéraire qui est activé ou réactivé selon les périodes. Et puis, autre chose, on parle de Néron, bien sûr, pour Covadis. Mais ce qui est intéressant, en 1932, Cécile B2000 fait Le signe de la croix, qui est tiré d'une pièce de William Barrett qui sort en 95, une pièce de théâtre, alors que Covadis en 96. C'est intéressant.
Et 1800.
Et donc, en 45, le film de Cécile B2000 ressort avec un prologue qui a été filmé par Dudley Nichols, le scénariste de Chevauchée Fantastique, où il y a des avions, un avion américain qui survole Rome. Et en lançant des tracts pour dire aux Italiens, on est en 42, qu'il faut, bon, c'est fini, il faut renoncer maintenant. Et il y a évidemment un pasteur et un prêtre qui sont dans l'avion et qui disent, on passe sur la voie sacrée, ils disent, autrefois, il y avait un autre Hitler. Et cet autre Hitler, c'était Néron. Donc c'est explicitement dit dans le prologue qui est rajouté après la guerre. Ça, c'est quand même intéressant.
Alors parlez-nous du conflit du Moyen-Orient à travers Cécile B2000 et Vidor.
Cette idéologie, bien sûr, on va la retrouver développée en filigrane dans les années, on va dire, 49-60, au moment où l'État d'Israël a une légitimité qui ne fait aucun doute. Quand vous regardez Samson et Delila de Cécile B2000 en 49, vous apercevez que le Saran, c'est-à-dire le chef des Philistins, qui est joué par George Sanders, distinction très britannique, tient à la fois des Britanniques qui viennent de quitter la Palestine et en même temps des nazis. Parce qu'on verra dans un certain nombre de films comme Samson, Hercule et Ulysse, les Philistins coiffés de casques qui ressemblent tout à fait aux casques des nazis de la Seconde Guerre mondiale. Et dans Salomon et la Reine de Saba, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le scénariste ou le réalisateur, je ne sais pas, change l'histoire. Dans Salomon et la Reine de Saba, pour ceux qui l'ont vu, de King Vidor, on voit une grande victoire des chars hébreux, avec une ruse de guerre devant les chars égyptiens.
Chars égyptiens qui,
avec
qui,
une guerre extraordinaire.
Qui évoque la déroute, évidemment, voilà, de l'armée égyptienne face à Israël.
Il n'y a jamais eu de guerre entre les Égyptiens et Salomon, qui a épousé d'ailleurs une fille du roi d'Égypte. Cette histoire des boucliers qui aveuglent les Égyptiens est en fait une épiphanie cinématographique où le successeur de Salomon a été dépouillé par les Égyptiens des boucliers sacrés de la garde. Donc là, on récupère, mais avec un peu d'avance. Et surtout, alors, en regardant bien le film, on pourrait voir, je l'ai dit autrefois d'une façon plus nette, je le dirai maintenant d'une façon plus nuancée, que quand même, les chars égyptiens sont attelés, comme c'est l'habitude, à l'antique. Ils ne sont pas très performants. Et les chars hébreux, j'allais dire israéliens, sont eux en plus petit nombre, mais ils sont eux attelés à la moderne et ils sont beaucoup plus performants. C'est l'offensive de 56 de Moshe Dayan à travers le désert du Sinaï.
Alors avant de terminer, je voudrais tout même resituer aussi ce genre cinématographique à l'intérieur d'une culture plus large. C'est-à-dire qu'il faudrait parler des romans du 19e siècle, les romans anglais, les romans polonais, etc., Sienkiewicz et autres, qui ont inspiré le peuple. Il faudrait parler aussi de la peinture, qui d'ailleurs revient aussi à la mode, puisque Jérôme vient d'avoir une rétrospective au musée d'Orsay qui a été très, très courue. Et d'ailleurs, Jérôme, le Ave César, et non pas Ave Peplum, mais le Ave César de Jérôme a inspiré Ridley Scott pour le personnage de Gladiator. Donc il y a toute cette peinture. Alma Tameda était ce peintre victorien pompier qui aujourd'hui, enfin le musée d'Orsay d'une certaine façon a réhabilité la peinture pompier. Elle a mis dans les ailes du musée, dans les petites salles, Monet, Cézanne, et pour mettre en vedette ces monuments de l'art pompier. Et Alma Tameda a beaucoup inspiré Cécile B2000.
Oui, mais on ne dira jamais assez vigoureusement le mal que Jérôme a fait au péplum. Parce que ces deux grands tableaux sont fondés sur des erreurs historiques énormes. Sur le Ave César, qui est d'ailleurs Ave Imperator, Moriturite et Salutante, a été prononcé une seule fois dans toute l'Antiquité. Et maintenant, on le trouve dans tous les films. Une fois.
Une fois suffit
dans,
pour
dans
faire
une circonstance toile, grotesque, d'ailleurs, avec, sous l'empereur Claude. Bon.
Claude, excuse-moi, mais peut-être le mal qu'il a fait à l'authenticité historique, que Jérôme a fait, je veux bien, mais quel bien il a fait au cinéma lui-même. Au niveau visuel et au niveau de l'imaginaire, la production de l'imaginaire, alors là, c'est absolument magnifique et on est encore dessus.
Christophe Gautier.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on a aussi affaire justement à une production spectaculaire, et c'est ça le point peut-être central aussi justement de ces films, c'est qu'on a bien affaire à du spectacle en fait. Il faut que le péplum soit un spectacle total. Et c'est justement aussi ce qui, au fond, dissocie dans la réception qu'on avait de ces films populaires spectaculaires, de films en fait d'auteurs ou plus confidentiels, et c'est toute l'ambiguïté en fait de la réception qui concerne ces films. On a bien affaire à un spectacle total, et c'était l'ambition de ces cinéastes, que de parvenir à un spectacle total. Voilà.
Philippe Faureau.
Oui, un dernier mot pour évoquer un péplum qui est particulier, me semble-t-il, c'est celui de Pasolini, l'Évangile selon saint Matthieu. Bon, alors, est-ce que c'est un péplum ou pas? Parce qu'évidemment, il ne répond pas à aucun critère que nous avons.
Bah si, le Christ.
Le Christ, non mais
oui, sujet de péplum.
L'Antiquité. Mais regardez comment il est filmé avec des soldats romains qui sont des soldats du XIVe et XVe siècle. Quand vous regardez les uniformes, d'ailleurs, il brouille un peu la question. Et puis, la culture. Vous parliez de culture, je crois que Pasolini. Alors, Pasolini, on dit, oh, c'est quelqu'un qui ne croyait pas. Mais je crois que l'affaire est peut-être un peu plus compliquée. Et puis, quand vous regardez cette œuvre, qui est peut-être une des grandes œuvres spirituelles concernant le christianisme, qui est dédié à la mémoire de Jean XXIII, c'est quand même un péplum qui mérite d'être sans doute approfondi un peu. Parce
oui,
que c'est un,
d'autant c'est, plus que c'est la mère de Pasolini qui joue le rôle de la Vierge.
Qui joue le rôle de la Vierge,
Christophe Gautier.
Ça pose la question d'ailleurs de l'extension en fait, du genre, si l'on veut, à un certain nombre d'auteurs consacrés. On a cité Pasolini, on pourrait citer Fellini avec le Satyricon, bien sûr, enfin, qui sont donc, des auteurs qui, après la grande vogue du péplum, on est après 64, ce n'est pas le cas tout à fait en fait de l'Évangile selon saint Matthieu, mais on pourrait dire en fait pour Médée ou pour voilà, ou pour Édith Roy du même Pasolini, sont des films qui sont postérieurs à la grande vague du péplum, et là il y a une forme de réappropriation par des grands cinéastes qui sont aussi de grands auteurs de films qui se réapproprient donc un genre, mais en subvertissant évidemment les codes spectaculaires, justement avec des limites qu'ils se fixent eux-mêmes. On pourrait évidemment épiloguer sur le Satyricon de Fellini,
en fait. Laurent, en le subvertissant, mais aussi en lui rendant hommage, parce que le cinéma antique baigne toute l'œuvre de Fellini. Par exemple, on voit des extraits de péplum, on voit les mosaïques, et par exemple dans le Satyricon, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend toutes les séquences obligées de tout bon péplum. La séquence de Gladiateur, le tremblement de terre, l'orgie, bien évidemment. Et il remploie même Gordon Mitchell, qui était la grande vedette. Il a joué Massiste, Hercule à l'époque du cinéma bis italien des années 60. Et il joue le rôle du voleur de l'hermaphrodite. Il y a aussi George Eastman, qui à l'époque faisait du western italien. Donc toute cette culture du cinéma bis italien est réintégrée par Fellini dans son propre film. Et pas vraiment pour la subvertir, mais au contraire, je trouve, pour lui. Non pas pour lui rendre hommage, mais pour montrer à quel point ça irrigue toute la culture populaire en général, et donc la culture cinématographique italienne.
Oui, alors, Claude Azida, d'ailleurs, cette référence qu'on vient de faire au Satyricon rejoint votre remarque au début sur le sous-texte souvent homo-érotique du péplum.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup le Satyricon de Fellini, et puis toutes les obsessions de Fellini. Ben, c'est très bien qu'elles y soient. D'ailleurs, je sais pertinemment, en tant qu'historien de l'Antiquité romaine, que la Rome reconstituée par Fellini n'est pas la Rome que l'on historique, si vous voulez. Et pourtant, quand je regarde le film, j'ai l'impression d'être à Rome. Donc il y a quelque chose, une magie. Alors que finalement, parce que le problème des passions, c'est un long problème, hein, et quand on regarde les passions les unes après les autres, ce qui m'est arrivé de faire, on s'aperçoit qu'elles sont assez souvent à la fois subversives et parfois même extrêmement lamentable, d'une certaine façon, et depuis la dernière, qui est celle de Gibson. Et chacune, non, c'est intéressant parce que chacune révèle les obsessions, les mauvaises idées, tout un ensemble. Qu'on prenne les passions les unes après les autres, celle de Pasolini, qui est complètement à contresens historique, avec une espèce de vision de l'Antiquité, de la Palestine qui n'existe pas, celle de Zeffirelli qui est commanditée par le Vatican et qui prend sur l'évangile de Matthieu, alors que, bon, qui est le plus orienté, etc., etc. Donc là aussi, chaque cinéaste, quel qu'il soit, a le reflet dans ses films de ses obsessions.
C'est leur liberté. Merci.
C'est leur liberté.
Eh bien, terminons sur ce beau mot. Merci beaucoup, Claude Aziza. Je rappelle vos livres, Néron, le mal-aimé de l'histoire chez Gallimard Découverte, Guide de l'Antiquité imaginaire aux belles lettres, et puis Le Péplum, un mauvais genre chez Klinksic. Laurent Aquelin, Le Péplum chez Armand Collin. Philippe Faureau, merci beaucoup, maître de conférence à Toulouse de Lemirail. Christophe Gauthier, conservateur à Cinémathèque de Toulouse, et qui, grâce auquel en particulier, on a eu droit à cette magnifique rétrospective où on a pu revoir tous ces films. Donc c'était Festival Zoom Arrière à Toulouse qui se termine aujourd'hui. Une grande rencontre de la cinéphilie, des restaurations de films et aussi de l'histoire du cinéma. Dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. Eh bien, cette semaine, nous recommandons vivement deux très grands films. L'un peu connu, tous les deux sont de Murnau. Un peu connu, c'est City Girl. Et l'autre, évidemment, qui est un des grands films de l'histoire du cinéma, de la vie de beaucoup de gens, et y compris de beaucoup de metteurs en scène, c'est L'Aurore. Dans une nouvelle édition, il existait déjà, avec des suppléments, avec des analyses de films, en particulier par Jean Douchet. Voilà, donc N.T. Bin va nous en parler. Ce sont deux grands films, donc d'un cinéaste qui est exilé, enfin si l'on peut dire, en tout cas qui a été attiré par Hollywood après avoir été un des maîtres du cinéma allemand des années 20, l'auteur de Nosferatu, l'auteur du Dernier des Hommes, l'auteur de Faust, donc Friedrich Wilhelm Murnau.
Alors Murnau, en fait, il ne peut pas résister aux sirènes d'Hollywood, mais comme beaucoup de ses confrères jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il faut dire qu'il est un metteur en scène extrêmement prestigieux lorsque William Fox l'invite à Hollywood et lui donne quasiment carte blanche, c'est-à-dire il peut choisir ses sujets, il peut choisir son équipe technique, il va diriger lui-même en quelque sorte la production et la fabrication de ses films. Je pense qu'une telle liberté, on ne la retrouvera pas à Hollywood avant l'arrivée d'Orson Welles quelques...
12 ans après.
Voilà, 12 ans après. Alors, Hollywood est dans une période faste, mais qui va s'apprêter à changer très très vite. C'est-à-dire que c'est la fin du cinéma muet, mais on ne le sait pas encore. Et c'est aussi l'apogée d'un langage qui, peut-être, cet âge d'or du cinéma muet américain qui commence peut-être avec les rapaces de Stroheim et qui a été initié évidemment par Griffith et qui va se terminer avec les grands films de King Vidor. Et bien là, l'arrivée de Murnau à Hollywood, non seulement va produire un chef-d'œuvre qui est L'Aurore, un film méconnu qui est aussi un très grand film qui est City Girl et qu'on doit absolument redécouvrir dans ce coffret, un autre film perdu. Mais il faut dire que déjà, Le Parlant fait son apparition et les studios vont profiter, je dirais, de l'apparition du Parlant pour enfermer les metteurs en scène dans des studios insonorisés, mais en fait pour mieux les avoir sous contrôle. C'est-à-dire que ce genre de carte blanche donnée à des créateurs ne va plus se produire pendant toute la décennie des années 30.
Alors ce film perdu, il faut dire, on en parle dans les suppléments de L'Aurore, c'est Four Devils, Les Quatre Diables dans le milieu du cirque, et qui est un film, on a énormément de photogrammes qui sont étudiés dans le... Mais alors revenons à L'Aurore. Ce qui est frappant quand on revoit ce film, c'est extraordinaire virtuosité technique. Oui. À la limite, il n'avait pas de steadicam à sa disposition, mais la scène du tramway, par exemple, où il suit les deux, le mari et la femme dans le tramway et dans la ville, c'est fulgurant de beauté.
Et en même temps, alors, ce qu'a voulu faire Murnau, et c'est d'une audace folle, il a voulu faire une épopée, mais avec deux personnages. C'est-à-dire que comme il avait le choix du sujet, il a pris un sujet extrêmement intimiste.
Enfin, et puis, trois.
Il y a deux personnages principaux et un personnage de méchant qui va amener à la crise, qui est la séductrice, qui va amener le couple à la ville, qui va donc provoquer une rupture, puis une réunion à la faveur, en plus d'un cataclysme naturel. Et pour ça, Murnau s'offre les moyens d'une super production. C'est-à-dire que pendant tout ce voyage en tramway filmé en très peu de plans, quasiment en plan séquence, on va avoir le décor à travers les vitres du tramway qui vont passer de la campagne sauvage jusqu'à la ville. Et on va faire construire tous ces décors en grandeur, non pas nature, mais avec des trompe-l'œil. Mais c'est un décor gigantesque, l'un des plus grands jamais construits à Hollywood. Tout ça uniquement pour montrer ce qui se passe à l'intérieur de la tête et des sentiments de deux personnages, quoi.
Il y a chez Murnau un étrange mélange entre la classe expressionniste mais en même temps réaliste aussi, parce qu'il y a une sorte de réalisme, mais en même temps, évidemment, on est dans des personnages, des thèmes qui existent derrière les images.
Moi, je dirais que c'est la grande force de Hollywood, c'est-à-dire de pouvoir s'approprier, par l'intermédiaire d'un catalyseur qui sera l'artiste Murnau, de plein de tendances qui existent. C'est-à-dire, Murnau, lui, il importe avec lui à la fois l'expressionnisme, je dirais, dans le fait que dans chaque plan, le décor, l'environnement, la caméra sont un reflet de l'intérieur des personnages. Hein, donc ça c'est quasiment un dogme expressionniste, mais aussi le romantisme allemand, mais aussi voilà, il y a des plans à la Gaspard Friedrich qui sont extraordinaires, et toute la, je dirais, la perfection technique que Hollywood peut lui offrir et les moyens à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est une sorte d'apothéose du cinéma. Je ne pense pas que si on refaisait l'Aurore aujourd'hui, on le ferait mieux. On le ferait différemment, mais sûrement pas mieux. Mais je voudrais quand même dire quelques mots de City Girl.
Mais il faut en parler. Alors, City Girl, c'est un film qui a été très longtemps perdu, qu'on a redécouvert. Et d'ailleurs, il y a aussi les commentaires de John Bailey, qui est le caméraman des Moissons du Ciel. Et on peut dire que Terrence Malick est un lointain descendant de, tout de même du Murnau des Moissons, de City Girl. Plus encore que de l'Aurore.
Oui, c'est-à-dire que dans City Girl, alors là, je dirais le côté expressionniste, c'est-à-dire stylisé et très expressif des éclairages, par exemple, et des décors et des angles un peu déformés, est dévolu à la ville. Et puis alors, dès qu'on arrive à la campagne, on a ce lyrisme, ce romantisme extraordinaire qui inspirera, je pense, tous les grands cinéastes de la nature jusqu'à Malick. Mais là, alors là, c'est un film qui n'a pas eu de chance, parce qu'il est arrivé alors que le parlant était déjà installé. Le studio a tenté de le faire sonoriser en mettant des scènes parlantes, en le faisant remonter. Donc là, on retrouve la version originale du film, et c'est un film avec des séquences extraordinaires. L'arrivée du couple qui vient de la ville tentaculaire et oppressante, et de ce couple qui retrouve et pour la jeune femme découvre la campagne. Vous avez un immense travelling dans les blés avec une barrière qu'on ouvre, qui est comme une barrière affective aussi, qui s'ouvre devant les personnages, et on les voit disparaître parce que on sent qu'ils s'embrassent dans les champs, et puis ils réémergent parmi les blés, et leur corps est suivi par un mouvement de grue orchestré par Murnau. C'est absolument extraordinaire. Et ça n'a pas besoin, à ce moment-là, des studios. Vous avez la nature qui est filmée de la même manière, avec la même virtuosité.
Alors, il faut dire qu'avec des gens comme Murnau, la Fox a été vraiment à la pointe de la recherche formelle à Hollywood. Et d'ailleurs, Murnau va avoir une influence sur les cinéastes.
Absolument.
John Ford ou Raoul Walsh. Tous ont été stupéfaits par les innovations de l'Aurore.
Et oui, en plus, il y a une sorte d'unité. C'est-à-dire qu'à la Fox, il y avait quelques superstars qu'on va retrouver aussi bien chez Murnau que chez John Ford ou chez Frank Borzeghi. Donc, il y a comme ça une poignée de films à la fin du cinéma muet, où Murnau est une sorte de réinventeur de forme. Il ne révolutionne pas, mais il permet une libération formelle qui est absolument unique et, à mon avis, qu'on ne va pas retrouver de sitôt dans le cinéma américain, parce que Orson Welles reste une sorte d'électron libre avec sa carrière hollywoodienne, alors que là, on a vraiment l'impression d'une influence immense et immédiate sur la façon de filmer à Hollywood.
Quelques mots sur les comédiens.
Les comédiens sont extraordinaires. Murnau est un grand directeur d'acteurs. Vous avez alors un couple,
élève de Max Reinhardt.
Absolument.
Théâtre.
Et il va intégrer, je dirais, ce qu'il a appris sur au théâtre en Allemagne avec la photogénie et le charisme des stars hollywoodiennes. Et vous avez un couple célèbre, mais qui est ici, je dirais, séparé, puisque vous avez Janet Gaynor, qui est l'héroïne de l'Aurore, et Charles Farrell, avec qui elle tournera des films, mais qui est le héros de City Girl, font preuve non seulement, je dirais, d'une intériorité qui fait passer tous les sentiments que Murnau voudrait exprimer, mais aussi de cette espèce de glamour extraordinaire et resplendissant du Hollywood de l'époque.
Merci, Ntebin. Donc, L'Aurore et City Girl sont édités chez Carlotta. On ne vantera jamais assez le travail tout à fait remarquable pour la qualité des copies et les bonus. Donc, L'Aurore et City Girl chez Carlotta, c'était Projection Privée, une émission de Michel Simon, à la réalisation Philippe Polares et Midia Portis-Guérin. Elle a été préparée par Sylvia Favre et vous pouvez la retrouver pendant une semaine sur franceculture.com. Dans quelques instants, ce sera Tentative Première de Ali Badou.